Imaginons un instant qu'on se lance dans des recherches généalogiques pour notre propre famille.
Ouais, le truc classique, on remonte son arbre familial.
Voilà, génération après génération, avec une grande fierté. Et soudain, en faisant les calculs, on réalise un truc fou.
Quel genre de truc?
Ben, mathématiquement, notre arrière-arrière-arrière-grand-père aurait largement eu le temps d'être présent à notre propre naissance.
Ah oui, là, il y a un léger souci de chronologie, en effet.
C'est complètement absurde, non? On se dirait tout de suite, bon, il y a une énorme erreur dans ces documents.
C'est clair, on remettrait les papiers en question immédiatement.
Eh bien, c'est exactement ce cauchemar arithmétique sur lequel on tombe si l'on prend les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse et qu'on les lit avec nos lunettes modernes.
Nos lunettes de comptable, tu veux dire?
Exactement. Comme si c'était un calendrier super précis ou une feuille de calcul de l'administration fiscale.
C'est une erreur fondamentale, en fait. Mais elle est super courante. Notre époque a vraiment une obsession pour la donnée brute et séquentielle.
On veut tout chiffrer.
C'est ça. On veut que chaque texte du passé, même ceux qui ont plusieurs millénaires, s'aligne parfaitement sur nos tableaux de bord actuels. Dès qu'on voit un chiffre, on suppose qu'il a la même fonction qu'une statistique moderne.
Et c'est là que notre exploration approfondie d'aujourd'hui prend tout son sens. Bienvenue à quiconque nous écoute en ce moment.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une analyse fascinante basée sur les notes de cours d'histoire de l'Ancien Testament du professeur Robert Vanoy. Plus spécifiquement, sa quatrième conférence.
Une conférence vraiment incontournable sur le sujet d'ailleurs.
Totalement. Et l'objectif de notre mission du jour est colossal. On va essayer de comprendre comment désamorcer ce conflit apparemment insoluble entre les généalogies bibliques de l'Antiquité, les découvertes de l'archéologie et la science moderne.
Vaste programme. Comment les experts résolvent ce casse-tête sans compromettre ni le texte antique ni la méthode scientifique?
D'accord, décortiquons un peu tout ça. Avant même de regarder ce que dit la science ou la géologie, restons juste dans la logique interne du texte biblique.
Ok, prenons le texte au mot.
Que se passe-t-il si l'on prend une calculatrice, virtuellement, hein, et qu'on additionne bêtement les âges du chapitre 11 de la Genèse?
Ben, on obtient un véritable vertige temporel.
Genre, vraiment le vertige.
Ah oui! Si l'on utilise Genèse 11 comme une chronologie stricte et ininterrompue, on part de la fin du récit du déluge et on descend la lignée jusqu'à la naissance du patriarche Abraham. Le calcul est implacable. Ça nous donne très exactement 292 ans.
Attends, 292 ans seulement.
Seulement 292 ans séparent un cataclysme mondial de la naissance d'Abraham.
Faisons une pause là-dessus, parce que, enfin, 292 ans, ça crée un paradoxe narratif massif quand on lit le reste de l'histoire.
Complètement. Ça ne tient pas la route.
Le texte nous dit qu'Abraham est mort à un âge super avancé. Il avait 175 ans.
C'est ça?
Mais si on remonte cette fameuse chaîne chronologique de 292 ans, on trouve Sem, l'un des fils de Noé, qui était dans l'arche pendant le déluge.
Et Sem, il a eu son propre fils, Arpakshad, 2 ans après ce déluge.
Sauf que le texte précise ensuite que Sem a vécu encore 500 ans.
Absolument. Donc, mathématiquement parlant, avec une lecture purement littérale et séquentielle,
Sem aurait largement survécu à Abraham.
Mais oui. En réalité, presque tous les ancêtres listés depuis le déluge auraient été encore en vie et auraient carrément côtoyé Abraham tout au long de sa vie.
Mais c'est dingue! C'est l'équivalent de lire une biographie historique hyper sérieuse et de découvrir au détour d'une page que Napoléon avait l'habitude de prendre le thé le dimanche avec Jules César.
C'est une excellente analogie. Ça n'a aucun sens chronologique.
C'est le signal d'alarme absolu, quoi. Ça doit nous indiquer qu'on ne lit pas ce texte de la manière dont son auteur l'a conçu.
Surtout quand on regarde le contexte de la vie d'Abraham.
Exactement. Le récit le montre sortant d'une ville appelée Ur des Chaldiens. C'était un environnement profondément païen et imprégné le polythéisme.
Alors que si on suit la logique des 292 ans, il aurait été entouré de ses ancêtres monothéistes.
Voilà. S'il n'y avait eu que 3 siècles depuis le déluge, Abraham aurait eu pour voisins directs les survivants de l'arche, des patriarches monothéistes monumentaux.
Or, le texte n'en fait aucune mention. Zéro. Abraham semble émerger d'un monde où la connaissance du dieu de Noé s'est presque totalement effacée. Ce qui est fascinant ici, c'est que la preuve que l'approche feuille de calcul échoue...
Elle se trouve dans le texte lui-même.
Exactement. Elle est sous nos yeux. Le récit de la vie d'Abraham ne décrit absolument pas un monde où l'humanité entière a été réduite à une seule famille à peine quelques générations plus tôt.
Ça décrit un monde déjà vaste, très peuplé et culturellement très éloigné des événements du déluge.
Voilà. La logique interne coince de toute évidence.
D'accord, mais imaginons que quelqu'un insiste, quelqu'un de très têtu. Si l'on prend tout de même cette fenêtre ultra serrée de 292 ans et qu'on la confronte à l'histoire du monde extérieur...
À l'archéologie globale, par exemple.
Oui, à l'archéologie. Que se passe-t-il? Si notre auditoire se demande si l'archéologie pourrait s'aligner, quelle est la réponse?
Eh bien, la réponse, c'est que le petit fossé se transforme en un gouffre infranchissable.
Aïe!
Historiquement, on situe l'époque d'Abraham aux alentours de l'an 2000 avant notre ère.
Ok.
Si l'on remonte de 290 et quelques années, selon le calcul littéral, ça placerait le déluge universel vers 2300 avant notre ère.
Et c'est là que les archéologues s'étouffent avec leur café.
Je te confirme, ils s'étouffent fort. Car grâce à des méthodes de datation croisées, comme la stratigraphie, tu sais, l'étude de la superposition des couches de terrain.
Oui, et la datation au carbone 14.
Voilà. Grâce à tout ça, on sait pertinemment qu'en Mésopotamie et en Égypte, des civilisations extrêmement complexes prospéraient déjà en l'an 3000 avant notre ère.
Bien avant la date supposée du déluge de la calculatrice, donc.
Et c'est pas fini. Si on fouille sur le site de Jéricho, on trouve des strates d'occupation humaine continue, des murs, des traces de villages, qui remontent jusqu'à 8000 avant notre ère.
8000 ? Ah oui.
Et dans toutes ces couches archéologiques, on suit un développement continu. Il n'y a aucune strate de sédiments massifs qui indiquerait qu'une inondation mondiale aurait englouti toutes ces civilisations, détruit Jéricho et effacé l'Égypte de la carte aux alentours de 2300 ans.
Sans compter qu'il y a une contradiction flagrante avec un autre chapitre de la Genèse elle-même.
Lequel ?
Le chapitre 10, ce qu'on appelle souvent la table des nations.
Ah oui, bien sûr.
Ce texte dresse la liste des descendants de Noé, et on y trouve des noms comme Élam ou Assur, qui correspondent en fait aux Élamites et aux Assyriens de l'histoire.
Des peuples immenses.
Voilà, l'histoire nous prouve que ces groupes formaient des nations gigantesques, avec des cultures, des architectures et des langues totalement distinctes, bien avant l'an 2000 avant notre ère.
C'est un fait établi.
Alors, comment peut-on logiquement soutenir que toute cette incroyable diversité linguistique et géopolitique ait pu émerger, muter et se structurer en seulement 292 ans après un déluge biblique? C'est juste intenable.
C'est effectivement intenable. Et pourtant, la réaction humaine face à cette dissonance cognitive, particulièrement au XIXe siècle, lors de l'essor de la géologie moderne, a été d'une créativité presque tragique.
Tragique ? Comment ça ?
Le professeur Van Hoy s'appuie sur les travaux de l'historien Andrew Dixon White pour illustrer ça. Quand la science a commencé à prouver que la Terre était bien plus vieille que ces fameux 292 ans, certains ont tenté de forcer la science à rentrer dans cette minuscule fenêtre temporelle.
Et c'est ça qui m'interpelle. Les gens du passé ont bien dû remarquer ce problème, non ? N'y a-t-il pas eu des penseurs pour essayer de tordre la réalité géologique au lieu de remettre en question leur méthode de lecture du texte ?
Si, carrément. Et les exemples sont sidérants. Un auteur nommé Saussol a publié un ouvrage en 1875 où il essaya de résoudre le problème égyptien.
D'accord.
Puisqu'il n'avait pas le temps pour que l'Égypte se développe progressivement dans son modèle chronologique strict, il a tout simplement affirmé que l'Égypte n'avait jamais connu d'âge de pierre.
Attends, quoi ?
Selon lui, elle avait été créée par Dieu, déjà civilisée, surgissant du néant, avec son langage complexe, ses hiéroglyphes et ses classes sociales.
Une civilisation créée avec un passif instantané, c'est audacieux comme pirouette intellectuelle.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et un autre théoricien, Philippe Goss, est allé encore plus loin dans ce qu'on appelle l'hypothèse de l'homme phallos.
L'homme phallos, ça me dit quelque chose.
Face à l'accumulation de strates géologiques immenses et de fossiles de dinosaures, Goss a suggéré que Dieu avait créé la Terre avec une apparence d'âge.
Une illusion, en somme.
C'est exactement ça. Les strates empilées, les traces d'érosion glaciaire, les fossiles incrustés dans la roche, tout cela n'aurait jamais existé réellement. Dieu aurait fabriqué ces indices de toutes pièces lors de la création, simplement pour donner l'illusion de l'ancienneté.
Mais attends, ça transforme Dieu en une sorte de grand illusionniste cosmique qui plante de faux indices géologiques juste pour tromper les scientifiques du futur.
C'est le grand problème de cette théorie, oui.
Sur le plan théologique, c'est presque un sabotage. Van Hoy qualifie ses tentatives de sophisme et franchement, on comprend parfaitement pourquoi.
Totalement.
Mais alors, si l'on écarte la théorie du complot divin de Gauss et qu'on rejette l'arithmétique absurde qui fait vivre Sem plus longtemps qu'Abraham,
ce qui est une sage décision,
on est forcé de se poser la vraie question. Que sont ces généalogies? À quoi servaient-elles dans l'Antiquité si c'était pas pour compter les années?
C'est la clé de toute cette analyse. Vanois se réfère aux travaux de théologiens majeurs, très conservateurs d'ailleurs, comme William Henry Green et B.B. Warfield.
D'accord, et que disent-ils?
Après avoir étudié ces textes en profondeur, leur conclusion est sans appel. Les nombres présents dans les généalogies de la Genèse indiquent bien l'espérance de vie et l'âge de procréation d'individus clés de l'Antiquité.
Ok, donc les chiffres ont un sens.
Oui, mais ces listes n'ont jamais eu la moindre vocation à établir une chronologie absolue de l'histoire du monde.
D'accord, mais est-ce qu'on a une preuve tangible que ces auteurs anciens compressaient volontairement le temps? Je veux dire, qu'ils sautaient des générations délibérément.
Absolument. Et la preuve se trouve dans la symétrie de la structure littéraire.
La symétrie.
Il y a exactement 10 maillons généalogiques dans Genèse 5, entre Adam et Noé, et l'on retrouve exactement, devine quoi, 10 maillons dans Genèse 11, entre le déluge et Abraham.
Ah, 10 et 10. C'est trop parfait pour être un hasard.
Exactement. Cette symétrie parfaite de 10 n'est pas fortuite. C'est une construction schématique. Dans le Proche-Orient ancien, ce type de structure aidait énormément à la mémorisation orale. Et ça exprimait une idée de complétude symbolique.
C'est vrai que sans l'imprimerie, il fallait bien des moyens mnémotechniques.
Et d'ailleurs, Warfield fait remarquer un détail capital pour appuyer ça. À aucun moment, nulle part, la Genèse ne s'amuse à faire le total de ses années.
C'est vrai. Et c'est d'autant plus frappant quand on compare avec d'autres livres de la Bible, comme le livre des Nombres.
Où on compte tout.
C'est ça. Lorsqu'il y a un recensement des tribus, l'auteur biblique additionne méticuleusement les chiffres pour donner un total super précis à la fin. Ici, dans la Genèse, on a des chiffres, mais pas de somme.
Précisément. L'intervalle réel entre la création et Abraham pourrait donc très bien être de 20 générations, de 200 ou même de 2000 générations, englobant des dizaines de milliers d'années d'histoire humaine.
Le texte s'en moque en fait, ce n'est pas son propos.
Voilà.
Mais du coup, est-ce qu'on a un mode d'emploi de cette technique dans des textes plus récents, où l'on peut vérifier les archives historiques pour confirmer que c'était une pratique courante de sauter des générations?
Tout à fait. L'exemple le plus irréfutable, on le trouve dans le Nouveau Testament.
Ah bon? Où ça?
Le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, qui détaille la généalogie de Jésus. Le texte est présenté avec une structure hyper rigide, presque poétique, 3 groupes de 14 générations.
Encore une belle symétrie, hein.
Sauf que pour maintenir ce chiffre parfait de 14, le texte déclare noir sur blanc que le roi Joram a engendré Ozias.
Ok, et le problème c'est quoi?
Le problème, c'est que si l'on croise cette affirmation avec les chroniques royales de l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a en réalité 3 rois successifs qui ont régné entre Joram et Ozias.
3 rois manquants.
Oui. Ozias n'est pas le fils de Joram, il est son arrière-arrière-petit-fils.
C'est génial. C'est une analogie parfaite avec notre propre usage linguistique moderne, tu sais.
Comment ça?
C'est un peu comme lorsqu'on utilise l'expression « les pères fondateurs » en politique ou en histoire.
Ah, je vois.
George Washington est considéré comme le père de sa nation, mais ça ne signifie pas qu'il est littéralement le père biologique direct de chaque citoyen américain.
C'est une filiation de statut.
Exactement. Le verbe « engendrer » dans l'esprit antique, c'est ça. Ça signifie « devenir l'ancêtre de », tracer une ligne d'identité et de légitimité, pas forcément un lien biologique strict de la génération d'avant.
Tout à fait. C'est une filiation théologique et historique, pas génétique au sens strict.
Mais attends, je dois me faire l'avocate du diable ici pour notre auditoire?
Vas-y.
Si l'on admet que ces textes sautent des générations entières, qu'ils compressent le temps pour faire de jolies symétries mnémotechniques, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à une critique qui dirait que la Bible est inexacte ou peu fiable?
C'est la grande peur de certains lecteurs modernes.
Oui. Comment des théologiens sérieux comme Warfield défendent-ils cela sans détruire la crédibilité même du document sur lequel ils basent leur foi?
Eh bien, si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est tout l'inverse. Comprendre ce genre littéraire ne détruit pas la crédibilité du texte, cela la restaure en respectant l'intention originelle de l'auteur.
On le lit comme il voulait être lu.
Exactement. Warfield souligne que la datation de la création du monde ou de l'apparition de l'humanité n'est tout simplement pas un enjeu théologique. La révélation biblique ne fournit pas et n'a jamais cherché à fournir les données nécessaires pour calculer ces dates.
Donc, ça libère le texte d'un fardeau qu'il n'a jamais voulu porter.
Voilà. Le texte laisse la porte grande ouverte à l'investigation scientifique, à la géologie et à l'archéologie. Il n'y a pas de conflit inhérent, car la Bible et la science ne cherchent pas à répondre aux mêmes questions.
Ce que tu dis établit une transition super naturelle. Si le but des chapitres 1 à 11 de la Genèse n'est pas de nous fournir un calendrier géologique, alors pourquoi ont-ils été écrits ?
C'est la question fondamentale.
Quel est le message central et comment fonctionne ce texte si particulier ?
Ces chapitres couvrent l'histoire primitive, c'est-à-dire la période qui précède l'histoire véritablement documentée, qui, elle, démarre avec Abraham au chapitre 12.
Et sur le plan littéraire, c'est structuré comment ?
Ce n'est pas un assemblage chaotique, c'est structuré par un mot hébreu clé, toledot.
Toledot, ça veut dire quoi ?
On le traduit souvent par « voici les générations d'eux » ou « voici les origines d'eux ». Cette balise divise le récit en 10 sections très nettes qui servent de charnière pour structurer le développement de l'humanité.
Et ce qui frappe n'importe quel passionné d'histoire ancienne, c'est de regarder le contraste entre la Genèse et les mythes des civilisations voisines de l'époque.
Ah oui, le contraste est saisissant.
Prenons l'Enuma Elish, par exemple.
Le grand poème de création babylonien.
C'est viscéral comme texte.
C'est très sanglant.
Dans ce récit, l'univers naît d'un chaos primitif absolu. Les principes de l'eau douce et de l'eau salée, Apsu et Tiamat, enfantent d'autres dieux super bruyants.
Et ils finissent par s'agacer mutuellement.
Ça finit carrément en guerre cosmique sanglante, où le dieu Marduk coupe la déesse Tiamat en deux pour fabriquer le ciel et la terre avec son cadavre. C'est dégoûtant. Enfin, je veux dire, c'est le chaos, la violence et le meurtre divin comme moteur de la création du monde.
Et c'est là qu'il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi la Genèse est-elle si radicalement différente ?
Parce que les Israélites vivaient entourés par ces cultures babyloniennes et cananiennes. Ils connaissaient ces histoires.
Absolument. Le récit de la Genèse est très probablement une polémique théologique délibérée. Un contre-récit. Dès les premiers mots, il s'oppose à ce chaos.
Pas de monstres marins primordiaux, pas de dieux qui s'entretuent.
Non, juste une majesté sereine et souveraine. Au commencement, Dieu créa. La lumière apparaît par la simple parole. L'intention est très claire, c'est de dire aux nations voisines « Notre Dieu ne naît pas du chaos, il le maîtrise d'un seul mot. »
C'est puissant. Et il y a d'ailleurs une anomalie linguistique fascinante qui appuie cette idée de majesté.
Tu parles du mot pour Dieu.
Oui. Le mot hébreu utilisé pour Dieu dans ses premiers textes, c'est Elohim. C'est un nom qui porte une terminaison plurielle.
Le fameux « im » à la fin.
Voilà. Mais, fait unique, il est grammaticalement couplé avec des verbes et des adjectifs au singulier.
Ce qui est une faute de grammaire dans un usage normal.
Exactement. C'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté. La toute-puissance et la pluralité des attributs divins réunis en une seule entité souveraine.
Ce terme « Elohim » nous amène d'ailleurs à un point crucial d'histoire de la critique textuelle.
Lequel ?
Au XIXe siècle, des érudits allemands, notamment Julius Wellhausen, avec sa fameuse hypothèse documentaire, souvent appelée hypothèse GIDP, ont analysé ce texte.
Et qu'est-ce qu'ils ont conclu ?
En voyant ce monothéisme si majestueux, si philosophique, ils se sont dit « c'est impossible ». Les anciens Hébreux étaient de simples nomades primitifs. Ils n'auraient jamais pu concevoir un Dieu unique aussi transcendant dès le départ.
Ah, je vois où ils veulent en venir.
Selon leur théorie, la religion évolue toujours de l'animisme vers le polythéisme pour n'atteindre le monothéisme que très tardivement. Wellhausen a donc postulé que Genèse 1 devait avoir été écrit des siècles plus tard.
Probablement pendant l'exil à Babylone, c'est ça ?
C'est ça, par des prêtres qui essayaient de consolider leur religion face aux Babyloniens.
Mais c'est un biais évolutionniste appliqué à la théologie, ça. Hein ? On présuppose que les anciens n'étaient pas capables de concepts complexes. Mais le professeur Van Hoy rejette cette hypothèse, n'est-ce pas ?
Totalement. Van Hoy, ainsi que de nombreux spécialistes modernes de l'Orient ancien, démontrent que cette hypothèse est lourdement grévée de préjugés philosophiques propres au XIXe siècle.
Les fameux préjugés de l'époque victorienne.
Oui. Les découvertes archéologiques ultérieures ont d'ailleurs montré que des concepts théologiques complexes existaient très tôt dans le Proche-Orient. Le récit de la Genèse a une cohérence interne, linguistique et structurelle qui milite pour son intégrité et son ancienneté.
Sans avoir besoin de postuler des rajouts tardifs juste pour justifier sa sophistication.
Exactement.
D'accord. On voit bien que le langage de la Genèse est choisi avec une précision chirurgicale pour établir la souveraineté de Dieu face aux mythes voisins. Mais du coup, comment ce cadre littéraire tient-il la route quand on arrive aux événements physiques massifs décrits un peu plus loin ?
Comme le déluge.
Oui, le fameux déluge universel des chapitres 6 à 9. Si « engendré » ne veut pas dire « père biologique direct », est-ce que lorsque le texte dit que toute la Terre a été recouverte d'eau, cela désigne vraiment la planète Terre au sens géophysique global ?
Et c'est là que l'analyse minutieuse du langage antique prend tout son sens. Le texte emploie effectivement des expressions comme « toute la Terre » ou « sous tous les cieux ».
Ce qui sonne très global pour nous.
Oui, mais Vanoy attire notre attention sur la manière dont la notion de « tout » fonctionnait dans la mentalité de l'époque. Très souvent, ce mot désigne un cadre de référence purement local, circonscrit au monde connu par l'auteur ou les personnages.
C'est un exemple de ça, Vanoy ?
Il cite un exemple limpide. Plus tard dans la Genèse, lors de la Grande Famine, le texte déclare que toutes les nations de la Terre venaient en Égypte pour acheter du blé à Joseph.
Ah, évidemment ! Personne ne s'imagine une seconde que les civilisations de la Chine ancienne ou les peuples d'Amérique du Sud traversaient les océans pour aller chercher du blé en Égypte.
Ce serait absurde.
Toutes les nations, dans ce contexte, désignaient le bassin méditerranéen oriental et le Proche-Orient. Le monde connu par les personnages, quoi.
Exactement. Et la même rigueur exégétique doit s'appliquer au récit du déluge. Sans nier l'historicité d'un cataclysme majeur dans la région, le professeur Vanoy prend d'ailleurs de grandes distances avec ce mouvement qu'on appelle les géologues du déluge.
Ceux qui défendent un déluge littéralement planétaire.
Oui, mené par des auteurs américains comme John Whitcomb et Henry Morris. Ces derniers cherchent à expliquer la formation de la quasi-totalité de la croûte terrestre mondiale, de tous les fossiles et de tous les canyons de la planète, par une inondation unique d'un an.
Une seule inondation pour faire le Grand Canyon ?
C'est leur théorie. Mais Vanoy souligne que leurs arguments scientifiques présentent des faiblesses monumentales. Et surtout, qu'une telle approche n'est même pas exigée par le texte biblique lui-même.
Tenter d'utiliser la Bible comme un manuel de géologie est aussi inapproprié que d'utiliser un poème pour construire un pont, en fait.
C'est une très belle façon de le résumer.
C'est l'heure de prendre un peu de recul pour notre auditoire. Cette exploration nous aura vraiment montré à quel point plaquer nos exigences modernes sur des textes millénaires est le meilleur moyen de fabriquer de faux conflits.
Des conflits qui n'ont pas lieu d'être.
Ces textes tracent des lignées théologiques, des identités. Ils proclament l'existence d'un créateur majestueux face aux mythologies chaotiques de l'époque. Et ils accomplissent tout ça sans jamais prétendre être des horloges astronomiques ou des manuels de sédimentation.
Et si l'on devait retenir une chose essentielle de l'analyse de Vanoy, c'est que le temps, les immenses périodes géologiques, ne sont qu'un paramètre physique.
Un détail technique.
Voilà. On peut parfaitement reconnaître et accepter la profondeur vertigineuse de l'histoire humaine et terrestre révélée par la science, sans que cela n'oblige quiconque à souscrire à des théories philosophiques particulières, ni à compromettre le sens profond des textes bibliques.
Parce qu'ils ne parlent pas de la même chose.
Les deux domaines répondent à des questions différentes. Le comment mécanique pour la science et le pourquoi ultime pour la théologie.
Et au-delà même des débats géologiques ou religieux, pour quiconque nous écoute aujourd'hui, c'est une leçon magistrale de littératie de l'information.
Tout à fait.
Comprendre l'intention première d'un document, cerner le genre littéraire auquel il appartient, c'est notre seul rempart pour ne pas utiliser ces données de manière erronée. Ce n'est pas parce qu'un document antique contient des listes de chiffres ou des âges qu'il s'agit d'un tableur Excel, tu vois.
C'est toujours le contexte qui dicte le sens, pas la forme apparente.
Toujours le contexte.
Et cette approche de la lecture du passé nous laisse d'ailleurs avec une perspective assez fascinante.
Oui, et c'est exactement ce qui va nous servir de pensée provocatrice pour conclure cette analyse.
Je t'écoute.
Puisque nous venons de voir de manière historiquement démontrable, avec l'exemple du roi Joram et du roi Ozias, que les auteurs anciens compressaient délibérément le temps pour créer des symétries parfaites de 10 ou 14 générations,
que ce soit pour faciliter la mémorisation orale ou pour véhiculer des symboles profonds, oui.
Eh bien, la question se pose. Combien d'autres chiffres présents dans les innombrables documents historiques de l'Antiquité que nous étudions aujourd'hui et que nous prenons naïvement pour des statistiques brutes, factuelles et littérales?
Combien ne sont en réalité que des cadres poétiques?
Voilà, des métaphores numériques ou des structures symboliques dont nous avons tout simplement perdu le code d'accès. C'est un mystère qui devrait, je pense, transformer notre manière de lire le passé.